bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin. Tu peux lancer le... Merci. Est-ce qu'on se rend toujours bien compte du temps qu'on peut passer à nos diverses activités dans le cours de notre vie? D'après une étude très sérieuse, voilà le temps qu'on passe à faire certaines activités quotidiennes dans notre vie. 25 ans. Dormir. 25 ans à dormir. Si on accumule les temps de repos, les temps de sieste et tout ça, 25 ans. Donc quand on parle d'une espérance de vie de 75-80 ans, bah vous enlevez 25 hein, déjà. Ça fait mal. 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant 11 ans? Pas la vaisselle, non, au travail. 11 ans de vaisselle, Claire, c'est difficile chez toi. On va en parler à Joe. 11 ans au travail. 11 ans aussi. Le même temps qu'on passe au travail, bah on le passe devant sa télé, en moyenne. 11 ans devant sa télé. 7 ans. 7 ans, c'est le temps qu'on passe à attendre que le sommeil vienne. Incroyable, hein? 5 ans. 5 ans, c'est le temps passé sur Internet. Alors, je pense que ce temps va augmenter avec les générations qui évoluent. Mais aujourd'hui, c'est 5 ans. 4 ans, c'est le temps qu'on passe au téléphone. 1 an, c'est le temps qu'on passe à être malade en moyenne. Ça arrange bien les médecins, les docteurs et tout ce qu'il faut pas bien. À être malade, 1 an. 6 mois, là, ça fait mal. 6 mois, c'est le temps qu'on passe à faire la queue. Si on accumule toutes les queues qu'on peut faire dans une vie, ben on passe 6 mois à attendre, à faire la queue. 140 jours, là aussi ça fait mal. 140 jours, c'est le temps qu'on passe en attente téléphonique. Vous savez quand vous appelez la sécu ou je ne sais qui, oui, ça va venir. Bah, 140 jours au total d'une vie. 136 jours, c'est le temps qu'une femme passe en moyenne à se préparer avant de sortir. Est-ce que vous avez une idée de temps que ça prend pour un homme? C'est pas 115 jours. Hein. Un homme, bah c'est à peu près le tiers, c'est 46 jours. Donc les hommes, messieurs, on gagne 100 jours de vie par rapport à nos épouses ou aux femmes, en tout cas, de manière générale. Et 115 jours, ça c'est quand même sympa, on passe 115 jours à rire dans une vie. Il y en a plus ou moins, hein, selon le comique de la vie. 115 jours. Alors quand on se rend compte de tous ces chiffres, du temps qu'on passe dans certaines activités, quand même 11 ans devant sa télé, 6 mois à faire la queue, ben, y a de quoi s'interroger sur le temps qui passe. Et il y a peut-être aussi de quoi s'interroger sur le sens de nos vies. Quel est le sens de notre vie? Si vous vous posez ce type de questions à propos du temps, du sens de la vie en règle générale, eh bien vous êtes loin d'être le seul. Et parmi tous ceux qui se sont posés cette question, il y en a un homme, qui se l'est posé il y a environ 3000 ans. Et la Bible nous dit que cet homme a été l'un des hommes les plus sages de tous les temps, peut-être le plus sage de tous les temps. Il s'agit bien sûr de Salomon. Et Salomon, face au temps qui passe, au sens de la vie, quelles ont été ses conclusions? Bien, je vous invite à lire le texte d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, où Salomon nous donne ses conclusions. Et pour lire ce texte, je trouvais qu'il allait bien... C'était une bonne chose de lire à deux voix, et Manu, que j'ai encouragé toute la semaine, va venir lire avec moi ce matin. Il y a un temps pour tout.
Et un moment pour toute chose sous le soleil.
Il y a un temps pour
naître.
Et un temps pour
mourir.
Un temps pour
planter.
Et un temps pour
arracher le plant.
Un temps pour
tuer.
Et un temps pour
soigner les blessures.
Un temps pour
démolir.
Et un temps pour
construire.
Il y a aussi un temps pour
pleurer.
Et un temps pour
rire.
Un temps pour
se lamenter.
Et un temps pour
danser.
Un temps pour
jeter des pierres.
Et un temps pour
ramasser.
Un temps pour
embrasser.
Et un temps pour
s'en abstenir.
Il y a un temps pour
chercher.
Et un temps pour
perdre.
Un temps pour
conserver.
Et un temps pour
jeter.
Un temps pour
déchirer.
Et un temps pour
recoudre.
Un temps pour
garder le silence.
Et un temps pour
parler.
Un temps pour
aimer.
Et un temps pour
haïr.
Un temps pour
la guerre.
Et un temps pour
la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles
en son temps.
Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est capable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner
du bon temps
durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu.
Merci. Dans ce texte, Salomon aborde la notion du temps sous deux angles différents. D'abord, dans un premier temps, du verset 1 au verset 9, Salomon fait le constat que notre vie sur cette terre, avec le temps qui file à toute allure, toute vitesse, ne semble finalement qu'avoir peu de sens. Heureusement, dans un second temps, du verset 10 au verset 15, Salomon se projette sur une vie qui va carrément au-delà du temps, d'une certaine manière, et qui prend alors tout son sens. Au verset 1, Salomon fait un constat simple et lucide. Il dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. » Sous le soleil. Ce temps se passe sous le soleil, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne sur cette terre, dans les moments que nous pouvons vivre les uns et les autres. Il donne une affirmation générale sur nos activités. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose. Et le mot hébreu traduit ici par « temps » dans ce passage se réfère au moment qui convient, au temps approprié pour faire telle ou telle chose. Et Salomon va développer ensuite cette affirmation « il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose » en énumérant 28 activités qui sont présentées par paire de deux à chaque fois, sans forcément d'ordre précis dans ces activités. Ces 28 activités représentent d'une certaine manière toutes nos activités que nous pouvons vivre dans notre quotidien, notre vie de tous les jours ici-bas. Tout ce qui se passe dans notre vie est résumé par ces 28 activités. Et à chaque fois, le même refrain revient. Un temps pour. À la manière des coups d'une horloge, marquant le temps qui passe dans nos vies. Les moments qui passent. Et ce refrain marque justement les moments de vie qui se succèdent les uns aux autres dans nos propres vies. Un temps pour. Un temps pour naître et pour mourir. La liste débute par le commencement et la fin de notre vie. Aucun de nous n'a de contrôle ni sur notre naissance, on n'a pas choisi de naître, ni sur notre mort, on ne choisira pas notre mort. Elle est actée. Si nous sommes présents ce matin, c'est que nous sommes tout simplement entre ces deux moments. À ce propos, un auteur non chrétien, Jacques Sternberg, écrit « Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Après cela, ça aggrave, parce qu'il n'y a plus de temps du tout. » Certains commentateurs expliquent qu'au lieu de traduire un temps pour naître, il serait mieux de traduire un temps pour enfanter. Et une telle traduction met aussi en relief un autre aspect, un autre paradoxe de nos vies. Nous pouvons transmettre la vie, mais nous sommes incapables de la garder. Avec Manu, nous avons pu transmettre la vie à nos 3 enfants, mais nous sommes incapables de garder notre vie. Un jour viendra où nous partirons. Je l'espère, nos enfants auront eux-mêmes, transmettront eux-mêmes la vie, et le cycle se poursuivra ainsi. Nous n'avons aucune maîtrise de ces choses-là. Un temps pour planter et pour arracher. Toute l'activité agricole suit un cycle de saison, et on est obligé d'y tenir compte, d'en tenir compte. Si on veut une récolte, on doit se soumettre aux lois naturelles de notre monde, qui règlent le rythme des saisons qu'on vit. Toute plante qui a été plantée meurt un jour, doit être arrachée et une autre est plantée. Tuer et soigner. L'homme est capable à la fois du meilleur, sauver une vie, et du pire, prendre une vie. Certains commentateurs vont moins loin et pensent qu'il s'agit plutôt d'une illustration du fait d'abattre un animal, une illustration agricole comme la précédente. L'éleveur aura soigné sa bête pendant un temps et puis le moment vient, il faut l'abattre pour consommer sa viande, par exemple. Démolir et construire. Il n'est pas rare qu'il faille détruire l'ancien pour construire le nouveau. Ça peut être un bâtiment, bien sûr, mais de manière plus imagée, un projet. On va investir beaucoup de temps sur un projet, puis d'un coup, on change de projet. Il faut changer ce qui était prévu à la base. Il faut donc démolir quelque chose d'obsolète pour construire quelque chose de nouveau, qui un jour ou l'autre sera aussi obsolète. Pleurer et rire, nos vies sont un mélange de tragédie et de comédie. Dans une même journée, on peut passer d'un énorme fou rire à des pleurs de tristesse, et inversement. Notre âme est capable de grands changements d'humeur en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'on vit. Se lamenter et danser, c'est la même idée que la précédente paire. Nous vivons tous des temps de tristesse, de deuil, d'épreuve, de maladie, et en même temps des temps de joie, de mariage, de naissance, de fête. Et les circonstances nous apportent du bon et du mauvais. Les mauvaises passes alternent avec les moments de joie. Nos vies sont faites ainsi. Jeter des pierres et en ramasser. On peut comprendre cette paire de différentes manières. Certains commentateurs expliquent qu'il y a un temps pour préparer le sol, en vue des cultures par exemple, puis un temps pour rassembler des pierres, en vue de construire. D'autres évoquent le fait qu'à l'époque, on bouchait avec des pierres les sources d'eau des ennemis, lorsqu'on était en guerre, en conflit, et c'est ce à quoi ferait référence ici Salomon. Il y a aussi un temps pour embrasser, pour s'en abstenir. Il y a des temps où on s'approche et des temps où on prend notre distance. Et c'est vrai dans bien des relations de nos vies, peut-être même dans toutes les relations de nos vies. C'est vrai dans des relations amoureuses qui parfois ne durent pas. Mais aussi avec nos amis, au gré des déménagements par exemple. Et même avec nos enfants, lorsqu'ils quittent le foyer. Il y a un temps pour chercher et perdre. On le voit au quotidien, où on cherche souvent des choses qu'on a perdues. C'est l'un de mes principaux problèmes. Je cherche assez régulièrement des choses que je ne sais plus où j'ai mis. Je peux vous dire que dans ces moments-là, j'ai du mal à garder mon calme. Quand au bout d'un quart d'heure, je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. D'ailleurs, pour ceux qui... Je cherche ma Bible. J'ai oublié ma Bible la semaine dernière. Je n'ai toujours pas retrouvé. Je ne sais pas où elle est. Mais enfin, j'en ai d'autres, heureusement. Mais en tout cas, on passe beaucoup de temps à chercher des choses qu'on a perdues, dont on ne sait plus où on les a mises. Conserver et jeter. On stocke beaucoup de choses. Plus on a de la place et plus on stocke. Et puis souvent, on s'en sépare lors de déménagements, par exemple, lors d'un rangement, sans trop comprendre pourquoi on a gardé ça tellement longtemps. Mais bon, on l'a gardé. Dans une autre approche, il y a aussi des choses qui nous ont bien servi, qu'on a bien utilisées, mais qui s'usent. Et à un moment donné, on les jette. Il faut s'en séparer. Déchirer et recoudre. Il y a peut-être un lien avec la mode vestimentaire. Les modes passent selon un cycle. On ne conserve pas le même habit toute sa vie. Garder le silence et parler. Il s'agit de se taire quand nous sommes tentés de critiquer peut-être, de blesser par nos paroles. Et de parler quand il faut avertir, expliquer des choses. Combien de problèmes on s'éviterait, et je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous, si on savait se taire au bon moment et parler au bon moment. Aimer et haïr, nous oscillons souvent entre des périodes d'amour et de haine. Comment expliquer sinon que tant de couples se déchirent, que c'est parfois dur dans nos familles, dans nos couples. Guerre et paix, cette seconde paire est souvent entraînée par la première, de l'amour et de la haine. L'amour et la haine entraînent des périodes de guerre, entrecoupées de périodes de paix toutes relatives. L'histoire de l'humanité se résume à des périodes de guerre et de paix. Mes deux grands-pères ont participé à la Seconde Guerre mondiale contre les Allemands. Et moi, la semaine dernière, j'ai reçu le correspondant allemand de Tom à la maison pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans de cette relation franco-allemande, par exemple, ou d'autres relations entre pays? On n'en sait rien, en fait. Les périodes alternent. Salomon interrompt cette litanie par une question au verset 9 où il dit « Quel avantage celui qui travaille, ou dans notre traduction, celui qui agit, retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Quel avantage retire-t-il de la peine qu'il se donne ? Ou autrement dit, que reste-t-il de toutes ces activités qu'on a vues ? Qu'est-ce qu'il en reste au fond ? Quel objectif ? Factuellement, qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, si on se contente d'un calcul basique, pas grand-chose. Chaque activité constructive, entre guillemets, s'accompagne d'une activité destructive. Les 14 œuvres positives sont compensés par 14 œuvres négatives. Mathématiquement, le résultat à la fin, c'est zéro. Le résultat est nul à la fin. Cela donne un sentiment d'inutilité totale de l'effort humain. Pourquoi amasser des pierres si c'est pour les jeter ensuite? Pourquoi planter si au final c'est pour arracher? Pourquoi construire si un jour il faudra détruire? Au final, c'est comme si on n'avait rien fait. Il n'y a aucun résultat. Le bilan est nul à la fin. Il y a une frustration terrible, et c'est ce que veut souligner Salomon, de réaliser qu'aucune de nos actions n'est en fait réellement décisive et durable. Ça ne dure pas. Ce qui ressort avec force de cette première partie de ce passage, c'est qu'il y a un vrai manque de permanence dans nos biens, dans nos réalisations, dans nos relations, bref, dans notre vie. Notre vie manque de permanence. Notre vie est faite d'éphémères, d'activités, de choix, de décisions, de relations qui sont éphémères et qui ne sont pas permanentes. La vie nous amène à faire des choses contraires les unes aux autres et au final, le bilan est nul. Il n'y a rien au final. Pire encore, cette liste avec son rythme lancinant de un temps pour ceci, un temps pour cela, etc., nous donne l'impression qu'il y a une puissante machine qui avance vers nous et qui décide des actions qui s'imposent à nous et sur lesquelles nous n'avons en fait aucun impact, aucun moyen d'agir concrètement. Le temps passe et je ne peux rien faire à ce temps. Quoi que je fasse, le temps passe. Les activités se bousculent devant moi sans que je ne puisse vraiment maîtriser ces activités. Et tout cela dévoile encore une fois la fragilité et quelque part la futilité de nos vies. Le constat fait par Salomon est très négatif. La vie de l'homme, sous le soleil, au quotidien, dans notre vie sur terre, est futile, cruellement insatisfaisante et passagère. Tout notre travail, toutes nos activités ne peuvent rien changer au final sur le temps, les circonstances de notre vie. Si je devais finir là, ma conclusion serait, n'a plus que tous aller se jeter d'un pont. Ce n'est pas forcément une super conclusion pour un message biblique. Et heureusement, il y a une suite. Heureusement, il y a bien plus à dire parce qu'il y a Dieu. Et avec Dieu, tout change. Si notre vie ici-bas, avec le temps qui file à toute vitesse, à toute allure, peut sembler n'avoir que peu de sens, la seconde partie de notre texte nous montre qu'elle prend tout son sens si on intègre Dieu dans nos vies. Dans les versets 10 à 15, Salomon nous livre 5 raisons qui font qu'on trouve un vrai sens dans nos vies grâce à Dieu. 5 raisons qui font que Dieu donne du sens, un véritable sens à notre vie sous le soleil, à notre vie quotidienne. D'abord au verset 10, Dieu nous donne de retrouver un sens à notre vie parce que c'est lui qui permet toutes ces activités. Verset 10, il dit, Salomon explique, j'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. C'est Dieu lui-même qui impose ses activités aux hommes ou qui les réserve, selon les traductions. Qu'est-ce que cela change au fond que ce soit Dieu qui nous donne de vivre ces différentes activités? D'abord, cela veut dire que même si le bénéfice qu'on retire de toutes ces activités peut être insatisfaisant, il ne s'agit pas d'y renoncer pour chercher par exemple à vivre en ermite, loin, seul, sur une montagne. Non. Il ne s'agit pas de refuser toutes ces activités, mais de les vivre, car Dieu nous donne simplement de les vivre, la possibilité de vivre toutes ces choses. Plus important encore, cela veut aussi dire que nous ne sommes pas livrés à un hasard aveugle, comme la première partie de ce texte pouvait nous le faire croire. Ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le hasard qui dirige toutes nos activités. Non, c'est Dieu lui-même qui dirige tout cela. C'est Dieu lui-même qui est le maître du temps, des circonstances, du hasard. Et le hasard qui finit avec un grand D. Pour celui qui a mis sa foi en Dieu, c'est un encouragement, c'est rassurant de savoir ça. Comme le psalmiste, le chrétien peut dire avec confiance, « Mes temps sont dans ta main », psaume 31, verset 16, « Mes temps sont dans ta main ». C'est quelque chose que nous avons vu dans l'introduction de Jonathan. Les circonstances, nos moments de vie sont dans la main de Dieu. Et ce qui nous arrive n'est pas dû au hasard, n'est pas dû à des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est Dieu qui maîtrise ces choses et qui nous permet de vivre ces choses dans ce quotidien, dans cette vie. Bref, mes activités, ma vie n'est pas futile. Elle est utile devant Dieu. Elle est utile. C'est utile, toutes ces activités que nous vivons devant Dieu. Il est dit au verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, il ne s'agit pas de nous faire croire à un monde de bisounours en niant le malheur, en niant la pénibilité de notre vie sur cette terre, mais d'affirmer avec force trois vérités essentielles. D'abord, Dieu fait toutes choses belles. Autrement dit, le mal, le malheur, ne provient pas de Dieu. Même si cela ne nous saute pas toujours aux yeux, Dieu veut faire quelque chose de beau dans nos vies, dans la vie de ceux et celles qui cherchent à l'écouter et à lui obéir. Comme le dit Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième vérité, Dieu fait toute chose belle en son temps. Encore une fois, Dieu maîtrise le temps qu'on est incapable nous-mêmes de maîtriser. Daniel 2, verset 21 va dans ce sens. Il dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu a un objectif dans nos vies et il fait les choses belles, mais en son temps. Et troisième vérité, Dieu sait ce qu'il fait. Et donc nos activités ont un sens. Dieu utilise nos activités aussi peu rentables, aussi dérisoires qu'elles puissent paraître, pour faire ce qu'il veut de bon. Dieu utilise nos activités qui semblent dérisoires pour faire des choses belles, des choses bonnes. Savoir que Dieu rend belles nos activités, qui manquent tellement de permanence, nous donne un message fort, je crois. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire toutes ces choses qui peuvent sembler tellement dérisoires parfois, parce que Dieu, lui, est capable de faire quelque chose de bon et de beau à travers nos activités. Ça vaut la peine. Troisième idée, c'est un sens retrouvé car Dieu nous donne une perspective dans l'éternité. La suite du verset 11, « Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. » Bien que nous vivions dans un espace-temps bien défini, nous sommes en 2019, chacun le sait, l'homme possède en lui comme une intuition de l'éternité. Dieu a implanté le sens de l'éternité dans nos vies. Nous avons une certaine conscience qu'il y a plus que les réalités qui nous entourent, que le temps qui passe. Nous avons une certaine conscience qu'il y a un toujours qui existe, même si nous sommes incapables de le réaliser pleinement ici-bas, parce que le temps passe, parce que les vies passent. Nous avons cette conscience, mais en même temps, au verset 11, la suite, « Pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Nous avons cette notion d'éternité dans le cœur, sans être capable de pleinement saisir l'œuvre que Dieu accomplit depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que nous manquons de recul par rapport à cette œuvre de Dieu. Nous sommes limités par notre temps, par nos vies, et on n'est pas conscient de l'œuvre que Dieu réalise dans son plan éternel, du commencement à la fin. On manque de recul pour apprécier bien les choses. Nous n'avons pas de vue d'ensemble de l'œuvre de Dieu parfois. Un jeune chrétien demandait à un plus âgé, « Pourquoi ma vie me semble tellement futile ?» Celui-ci lui répondit, « Écoute-moi, imaginons une mère en train de broder, son petit enfant assis sur un tabouret plus bas, la regarde travailler, mais par-dessous, à l'envers. Il voit les nœuds de la broderie, l'enchevêtrement des fils, et il dit à sa mère alors, « Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? Ton travail est tout embrouillé. » Alors sa mère abaisse le tissu et lui montre le bon côté de la broderie. Chaque couleur est à sa place et la variété des fils se fond dans l'harmonie du dessin. Il en est ainsi pour nous, qui voyons l'envers de la broderie. Nous sommes assis sur le petit tabouret et nous manquons de recul pour saisir l'œuvre magnifique de Dieu, éternelle. C'est à la lumière de l'éternité que l'existence humaine prend tout son sens. La notion d'éternité donne un sens à notre vie sur cette terre. Nos circonstances dans le monde présent peuvent parfois nous sembler injustes, difficiles, incompréhensibles. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin. On est parfois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais dans la vision globale de Dieu, dans la vision éternelle de Dieu, cela prend du sens. Parce que Dieu a un plan de bienveillance éternelle envers chacun d'entre nous. Un sens retrouvé aussi, car Dieu réjouit nos vies par ses dons. Versets 12 et verset 13. « Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger, boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Après avoir remis Dieu au centre de l'équation du temps qui passe, Salomon en tire une nouvelle conclusion sur notre vie sur cette terre, que je résume ainsi. Nous sommes appelés à jouir de cette vie comme d'un don de Dieu. Nous sommes appelés à jouir de notre vie comme d'un don de Dieu pour chacun d'entre nous. Si notre vie dépend de lois que nous ne maîtrisons pas, de toutes nos activités qui manquent de permanence, alors Salomon conclut que la meilleure chose à faire, c'est de profiter pleinement, de jouir de cette vie que Dieu nous a donnée. Mais il ne s'agit pas d'une jouissance sans borne qui verserait dans l'excès et même le n'importe quoi, comme on peut le constater aujourd'hui. Où finalement, l'idée principale de notre société, c'est de jouir de sa vie en faisant tout et n'importe quoi, sans limite et sans respect pour les autres non plus. Non, c'est de jouir de sa vie comme d'un don fait par Dieu à chacun d'entre nous. Il s'agit de vivre une vie de contentement joyeux, centrée sur le Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, selon 1 Timothée 6, verset 17. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous ne sommes pas appelés à nous morfondre toute notre vie sur la pénibilité, la difficulté, la futilité d'une certaine manière de notre vie. Non, au contraire, nous sommes appelés, Dieu nous appelle à nous réjouir de tous les petits plaisirs, de tous les dons qu'il nous donne dans cette vie. À prendre plaisir pour tout ce qu'on a, au lieu de nous morfondre ou de nous attarder sur tout ce qu'on n'a pas. Tous ces petits plaisirs de notre vie sont autant de Dieu, de dons de Dieu pour nous, dont nous pouvons nous réjouir en étant reconnaissants pour cela. Quels sont vos petits plaisirs dans cette vie? Je vais vous donner quelques exemples. Moi, j'ai du plaisir quand ma petite dernière Léane vient me réveiller le matin. Alors, parfois, c'est un peu tôt, j'avoue. Mais je sais qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, je prends plaisir. J'ai du plaisir quand je peux faire une sortie de vélo en montagne, sur les derniers hectomètres, les derniers mètres avant le sommet de la montagne, pour l'effort fourni. J'ai du plaisir quand mon équipe favorite, l'Olympique de Marseille, gagne. Bon, actuellement, c'est plus compliqué, mais voilà. Mais j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à regarder un bon film, à partager un bon repas, à lire un bon bouquin. Tous ces petits plaisirs, bah Dieu nous les donne pour que nous puissions nous réjouir de cette vie ici-bas. Et en nous réjouissant de l'adorer lui, de le remercier lui, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il nous offre et tout ce qu'il nous donne. Nous n'avons pas à inventer un sens à notre vie, mais nous devons le recevoir comme un don. Nous ne trouverons pas de sens de notre vie dans nos réalisations, dans nos activités, mais dans l'accueil des dons que Dieu nous fait pour réjouir notre cœur. Notre sens n'est pas dans l'activité en elle-même, dans tout ce que nous pouvons réaliser dans la vie. Notre sens est en Dieu, mais nous pouvons nous réjouir des différentes activités que Dieu nous permet de vivre sur cette terre. Et dernier aspect, un sens retrouvé car Dieu fait des choses permanentes. Versets 14 et 15. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, ce qui sera dans l'avenir a déjà été et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Si toutes nos activités sur cette terre sont marquées par le manque de permanence, par la fragilité, par la futilité, il n'en est rien des actions et de l'œuvre de Dieu, qui, elle, est marquée par la permanence, par la perfection, comme le dit le verset 14. Il y a un monde d'écart entre nos réalisations et l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune comparaison possible. On ne joue pas dans la même catégorie, tout simplement. Face à l'alternance d'une activité qui ne dure pas, un temps pour ceci, un temps pour cela, hein, il y a le toujours de Dieu. Dieu fait des choses qui demeureront toujours. C'est un temps différent dans lequel rien ne se perd. Et le temps de Dieu donne du sens au temps de l'homme. L'activité humaine, notre activité ne produit rien de permanent. Mais la Bible nous dit que l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers qui ? À travers vous et moi. Et l'œuvre de Dieu, elle, est permanente. Donc mes propres activités sont futiles et sont manque de permanence. Mais si je suis à l'œuvre pour Dieu, je réalise des choses permanentes. Dieu nous donne la possibilité de participer à son œuvre qui durera toujours. qui sera permanente. Cette différence immense entre les œuvres de Dieu et les nôtres doit nous pousser à adorer, simplement. C'est ce qu'il dit au verset. Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Dieu nous donne la vision de la futilité de notre vie pour que nous puissions nous tourner vers lui, œuvrer en son nom pour réaliser des choses qui sont permanentes et être dans la reconnaissance, l'adoration, parce qu'il nous permet de faire ces choses-là. L'éternité de Dieu et ses réalisations tranchent tellement avec le caractère éphémère de nos activités et de notre propre vie que cela doit nous pousser à l'humilité devant lui et à l'adoration pour ce qu'il réalise de permanent. Parce que Dieu a accompli une œuvre permanente déjà dans ma vie, il m'a sauvé et je lui appartiens. Et cette vie est finie, un jour elle finira, mais la vie éternelle continuera. Si on n'était pas encore suffisamment conscient de notre petitesse, Salomon nous rappelle au verset 15, au dernier verset, que le monde n'ira pas en s'améliorant avec le temps. L'histoire n'est faite que de grands cycles qui se répètent inlassablement. Notre bonheur sur cette terre sera toujours éphémère, imparfait, assombri par les injustices qui règnent dans la société. Et le théologien Robert Charles Poole a écrit à ce propos, « L'idée est que dans un temps fini, il y a des cycles périodiques au cours desquels ce qui a été revient indéfiniment. Le drame de la vie humaine, est une pièce de théâtre avec un bis après l'autre. On répète les mêmes erreurs. On répète les mêmes choses. » Pour conclure, je voudrais vous lancer deux invitations auxquelles ce texte nous appelle, je crois. D'abord, une invitation à connaître vraiment Dieu. D'une certaine manière, je crois que nous aspirons tous à l'éternité. Certains hommes ont cherché, et cherchent encore aujourd'hui, à marquer l'histoire pour qu'on garde un souvenir d'eux. C'est pour ça qu'on retrouve des statues, des tableaux, des noms de rues avec des noms de personnes plus ou moins célèbres. Ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'Iliade, écrit en 800 avant Jésus-Christ, c'est déjà la raison qui a poussé le fameux Achille à aller combattre la guerre de Troie. Il préférait vivre une vie courte, parce qu'il savait qu'il allait mourir là-bas, mais glorieuse pour vivre éternellement dans le souvenir, plutôt que de vivre une vie longue, qui soit oubliée par ses compatriotes. Et Dieu nous invite à bien plus que simplement un souvenir éternel. Il nous invite à la vie éternelle. Il ne nous invite pas à ce qu'on garde le souvenir de nous éternellement. Il nous invite à vivre la vie éternelle. Si Dieu fait tout dans l'éternité, et qu'en même temps il invite l'homme à une relation avec lui, alors c'est que cette relation est marquée par l'éternité. Jésus a vécu la même vie éphémère, futile, que chacun d'entre nous. Mais en remportant la victoire sur la mort, en ressuscitant, il a fait triompher l'éternité sur la futilité, sur l'éphémère de nos vies. C'est cela le message de l'Évangile dans lequel je crois. Si vous ne connaissez pas encore Dieu, alors n'hésitez pas à le mettre au défi, honnêtement, dans votre propre vie, pour chercher à vraiment le connaître. Ne tardez pas, car nous sommes encore dans ce temps de grâce, mais qui aura aussi, lui, une fin, un jour ou l'autre. Mais nous sommes aujourd'hui dans ce temps de grâce où Dieu nous appelle à nous tourner vers lui pour vivre une vie éternelle. Deuxième invitation, c'est une invitation à vraiment apprécier Dieu. C.S. Lewis a écrit « La doctrine chrétienne de la souffrance éclaire, je crois, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établis auxquels nous aspirons tous, Dieu nous en prive, en ayant rendu le monde tel qu'il est en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri, mais nous avons beaucoup d'amusement et parfois même de extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde et constitue un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain, un match de football, n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre, au cours de notre voyage sur cette terre, de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes. Mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. Nous ne sommes pas dans la maison. Nous avons plein de joie dans les différentes activités que nous pouvons vivre. Mais Dieu insère la futilité de notre vie dans notre vie pour que nous ayons conscience de qui il est et que notre vrai plaisir, notre vraie joie, nous puissions l'avoir en lui. À quel point dans ma propre vie, je vis pour mes activités, pour mon travail, pour la réussite professionnelle, pour mes activités ludiques, pour réussir sportivement ou je ne sais quoi. Ou à quel point je profite de tout cela, je jouis de tout cela, mais en me tournant vers Dieu, en ayant vraiment à cœur ce Dieu. Pour imaginer cette même idée, le manque de permanence, la frustration, la fragilité inhérente à notre vie, cette terre, nous évite d'apprécier de jouer dans une pauvre petite flaque d'eau quand Dieu, lui, veut nous donner un océan. Nous avons à vivre pleinement cette vie en Dieu pour l'apprécier vraiment, pour que notre joie, notre satisfaction dans cette vie ne soit pas accrochée à nos activités et qu'elle se transforme en idole au final, mais pour que notre joie soit en Dieu qui nous permet de jouir de ces activités, que notre joie soit pleinement en Dieu, que nous puissions vraiment apprécier Dieu pour qui il est, un Dieu généreux et un Dieu qui veut marquer notre vie et qui veut donner un sens à notre vie. Amen.